Merci. Et tout de suite, on déhausse les raquettes. 1, 2, 3. Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Bonsoir, Mariam Majidi.
Bonsoir, Vache Boulroujien.
Mariam Majidi, vous êtes née trois fois au moins, vous êtes une sorcière de la langue. Et avec ce premier roman, Marx et la poupée aux éditions Le Nouvel Attila, vous vous réconciliez avec le persan.
Et vous, Vache Boulgourgian, cinéaste, vous soufflez sur les braises de l'histoire du Liban dans votre film Tramontane, et tous deux, vous déterrez avec un mélange d'humour, de colère et de détermination les fantômes familiers du passé.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture, ça sert à tout, même à se choisir un président. Doublé cérémonial pour le cinéma ce week-end, les Césars puis les Oscars. Si vous envisagez de regarder tout cela entre amis, en mangeant du fromage par exemple, plutôt que des pizzas, pour marquer la différence avec les matchs de foot, vous pourrez rappeler autour de vous que c'est la deuxième fois de leur histoire que les Césars n'ont pas de président. En 2003, c'était le cas, suite au décès de l'irremplaçable Maurice Pialat. En 2017, ce sera après l'appel au boycott et le renoncement du président annoncé, Roman Polanski, suite à une accusation de viol sur mineur en 1977. Ce qui avait d'ailleurs fait dire à la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, qu'il était surprenant et choquant que l'histoire d'un viol n'ait pas pesé dans le premier choix de l'Académie. Alors peut-être aurait-on pu le remplacer, ce président ? C'est ce que suggérait le magazine spécialisé Première en posant la question sur son compte Twitter, proposant d'offrir cette présidence vacante à un exilé de la cérémonie des Oscars, cette fois le cinéaste iranien Asghar Farhadi. Nommé dans la catégorie meilleur film étranger pour Le Client, on le sait, Farhadi ne se rendra pas à la cérémonie des Oscars suite à la publication du décret Trump, rebaptisé Muslim Ban, qui interdit aux ressortissants iraniens, entre autres, l'entrée sur le sol américain. Un décret de son actrice Taraneh Ali Dousti qualifie de mesure raciste et Farhadi de souligner que sa présence faisant l'objet de si et de mais, ça n'était pas acceptable quand bien même on aurait fait une exception pour lui. À revoir sur YouTube alors le discours de Farhadi en 2012, premier iranien à remporter l'Oscar du meilleur film étranger pour Une séparation. On se dit qu'il aura été le meilleur espoir présidentiel en exil pour cette 42e cérémonie des Césars.
En ce moment, beaucoup d'Iraniens nous regardent à travers le monde. Je les imagine heureux, pas seulement à cause de ce Grand Prix, mais parce qu'en ces temps de guerre, d'intimidation et d'agression, le nom de leur pays, l'Iran, est associé à une grande culture.
Un discours de paix tellement fort que l'agence iranienne Farnews en avait même trafiqué la traduction en persan, glissant une allusion inexistante et belliqueuse au programme nucléaire iranien. Un discours qui, au-delà des Césars et des Oscars, résonne avec nos invités du jour, la franco-iranienne Mariam Majidi et son premier roman de réconciliation culturelle, et le réalisateur Vacheteh Boulgourdian, qui dans un style très faradien, nous raconte par l'intime et les métaphores les années de guerre civile au Liban.
Ping-pong, c'est sur France Culture.
Il était une fois le ventre de la mer. 1980, Université de Téhéran. Un nuage de fumée au loin, des coups de feu, des cris. J'ai peur, je sens le danger et je me recroqueville un peu plus au fond du ventre. Mais ce ventre va vers la mort, poussé par une force irrépressible. La jeune mère court dans les couloirs d'une université. Elle manque de tomber. Elle a failli glisser sur une flaque de sang dont la trace mène jusqu'à une salle de cours d'où sortent des hurlements déchirants. Elle s'approche et regarde. À travers la porte entrouverte, elle voit une jeune fille allongée sur une table. Un homme tente de la violer. À côté d'elle, par terre, un jeune homme à qui on brise le crâne à coups de bâton. Elle met la main sur sa bouche pour étouffer un cri d'épouvante. Les voiles des femmes sont piétinées. Des mains arrachent leurs cheveux. Les femmes sont traînées par terre. Elles se débattent comme elles peuvent et les hommes qui les traînent les traitent de sales putes. Ces hommes ont les yeux injectés de sang et brandissent des bâtons plantés de clous. Ils hurlent « Allah Akbar ». Son bébé, soudain, Elle prend conscience qu'elle est enceinte. Deux hommes l'ont vue. Au bout de leurs bras pendent des bâtons cloutés. Ils avancent vers elle. Une fenêtre est ouverte. Enceinte d'un bébé de 7 mois, elle doit sauter du second étage, hésite, se retourne et son regard se fixe sur ses bâtons. Elle sent déjà les clous s'enfoncer dans sa chair. Elle saute. Elle saute et je tombe. Tu es suspendue en l'air et c'est moi qui tombe. Je tombe et ton ventre se creuse. Je me tapis jusqu'à disparaître. Je tombe et tu m'abandonnes dans ce ventre suspendu dans le vide. Tu me jettes hors de toi. Mon premier abandon. Ma première blessure d'amour.
Mariam Majidi, vous venez de nous lire un extrait de Marx et la poupée, votre roman qui vient de paraître au Nouvel Attila. Ça commence in utero, à Téhéran. Ce récit va nous entraîner jusqu'en France et même jusqu'à Los Angeles et Miami, ou presque. Et pour décrire ce récit émaillé de souvenirs, je me suis dit, voilà, c'est pas un conte persan, certainement pas. Il n'est pas question d'écrire un conte persan de plus, comme on le comprend en vous lisant. On a l'impression, avec l'extrait que vous venez de nous lire, qu'on est dans un scénario. On a la sensation d'avoir affaire peut-être à des miniatures persanes. Et vous écrivez à un moment une histoire de tapisserie iranienne, faite de couturée de 1000 blessures, comme la peau d'un amant. Un livre défoncé. Est-ce que vous pourriez nous décrire déjà, pour commencer, la façon que vous avez eue de tisser ce récit?
Alors, je pourrais commencer par l'écriture dans son élaboration d'abord, parce que c'est vrai que ça a été commencé à Pékin en 2012. Je vivais en Chine à ce moment-là et ça a démarré avec les 20 premières pages qui constituent aujourd'hui les premiers chapitres. Puis ensuite, je n'y ai plus touché pendant 2 ans. Et à Istanbul, où j'y ai vécu aussi 2 ans, j'ai trouvé que c'était vraiment la ville de l'exil. Istanbul m'avait énormément inspirée à ce moment-là. Et là, j'ai commencé à écrire par bribes, en fait, mais dans un désordre absolu. Tous les chapitres qui sont aujourd'hui, voilà, dans ce roman. Donc, en fait, la forme éclatée, fragmentaire, je crois qu'elle correspond aussi à mon identité. Je suis née à Téhéran, j'ai grandi à Paris, je suis allée vivre à Pékin, je suis ensuite allée à Istanbul, j'ai voyagé en Inde, au Cambodge, etc. Donc voilà, je tenais à ce que, effectivement, ça a des allures un peu de tapisserie, sorte de mosaïque.
C'est fragmentaire, c'est vrai, et c'est fragmentaire dans le genre. Il y a quand même un petit peu de conte, il y a toutes ces époques et ces gens qui se télescopent, et il y a aussi cette situation de la langue. C'est-à-dire que vous êtes dans un français, et pourtant, on le comprend en lisant ce premier roman, le français, c'est pas une langue qui fait plaisir à l'héroïne qui est assez proche de vous, c'est plutôt un français administratif qu'il faut rédiger, un français qu'on écrit pour faire pleurer dans les chaumières, pour pas payer la redevance audiovisuelle. En quoi c'était, par le français, votre réconciliation avec le persan?
Alors, il faut, je pense, quand même préciser certaines choses. J'ai vraiment 2 langues maternelles, hein, le persan et le français. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette réconciliation, en fait, elle a vraiment eu lieu en 2003, quand j'ai entrepris une maîtrise de lettres modernes à la Sorbonne. Et à ce moment-là, en fait, c'était donc une maîtrise rédigée en français sur 2 auteurs persans, Omar Khayyam et Sader Hedayat. Et vraiment cette année-là, c'était une année très importante pour moi dans ma vie, puisque je témoignais d'un amour de la littérature persane en français. Donc le français était comme le support, l'instrument qui me permettait ensuite, moi, de renouer avec le persan. Et tout ça grâce à vraiment, je pense, à mon directeur de recherche, un homme remarquable qui a accepté ce sujet. Et du coup, c'est suite à ça que je suis retournée aussi en Iran. Donc, tel que je le décris dans le roman, on a l'impression que ces deux langues, effectivement, ont été en conflit, en lutte. Mais il y a cette fameuse année, voilà, de recherche littéraire. Donc, à travers la littérature, où j'ai pu effectivement me réconcilier, j'ai envie de dire, avec les deux langues, puisque les deux venaient se compléter, s'entraider presque.
On peut le dire quand même et le rappeler, votre héroïne et vous-même, c'est une naissance et une enfance avec des parents qui sont engagés, qui sont communistes, qui sont révolutionnaires en Iran. Ensuite, un exil en France, vous allez rejoindre votre père avec votre mère. Et puis, donc, ce retour tardif à Téhéran.
Oui, il y a quelque chose d'ailleurs du labyrinthe à travers votre parcours et à travers la forme que vous avez choisie pour ce récit, donc ce récit fragmentaire. On pense, vous avez évoqué la mosaïque aux petits cailloux blancs ou au fil d'Ariane. Et justement, je me demandais si dans ce labyrinthe, puisque c'est un peu vos parents qui vous y ont placé, si vous êtes Ariane ou si vous êtes le Minotaure.
Les deux. Je pense qu'on est toujours un peu les deux.
Et donc vous étiez animé aussi par une sorte de rage, de colère,
bien sûr, bien
comme
sûr.
Comme le Minotaure enfermé dans ce labyrinthe.
Alors bien sûr, c'est-à-dire que je suis passée par des rages successives, si on peut dire ça comme ça. Tout d'abord, l'héroïne, en tout cas de ce roman, refuse au début de parler le français. La langue est en gestation, voilà. Parce que c'est quelque chose de terriblement nouveau qui lui arrive. Et donc, alors c'est peut-être pas une rage contre le français, mais elle a besoin de temps. Une fois qu'elle parle le français, elle est en rage contre le persan. Hein, le chapitre qui dit « Non, non, je n'apprendrai pas le persan », c'est vraiment aussi le refus, à ce moment-là, de son identité d'origine, hein, de ses racines. Et puis ensuite, et là, par contre, je parle de moi. À partir du moment où je suis retournée en Iran après 17 ans d'absence, quand je suis revenue en France, j'étais en guerre contre la France. Donc j'avais une troisième rage. C'est-à-dire que j'étais persuadée que finalement mon identité était restée là-bas, qu'ici les gens ne me comprenaient pas, que je pouvais pas les comprendre, et que finalement, voilà, on m'avait arrachée à quelque chose qui avait été fondamental pour moi. Et ensuite, donc, il y a eu cette fameuse réconciliation. Donc, voilà, la rage a laissé place, finalement, grâce, encore une fois, à l'écriture et à la littérature, à voilà, une forme d'apaisement, j'ai envie de dire.
Mais alors, Vache Boulgourgian, est-ce que, pour faire le parallèle avec l'entreprise et la rage ou la colère de Mariam Majidi, dans votre film Tramontane, avec l'histoire de ce garçon, on va y revenir, un rabbi qui cherche son identité à l'occasion d'un passeport, qui cherche à se faire fabriquer, il découvre qu'il n'est pas celui qu'il croyait être depuis sa naissance. Pour vous, avec ce film qui aussi est fait de rage contenue, ce personnage de rabbi, ce jeune garçon aveugle, il a une rage en lui, une colère et une détermination. Est-ce que c'était une façon pour vous de rendre des coups au Liban ou au contraire de chercher un apaisement et une façon d'être libanais?
Thank you first of all for having me. It was extremely moving to hear Mariam.
D'abord, merci de m'avoir invité. C'était très émouvant en fait d'entendre votre lecture parce que effectivement ça faisait écho à ma propre expérience et aussi à mon film Tramontane. Je dirais que la rage de Rabia n'est pas contre le Liban, hein. C'est la rage d'être orphelin sans explication quant à cet abandon souffert. Et exactement comme les personnages de Mariam, il bâtit une mosaïque à partir de ses expériences, à partir de ses différentes rencontres qu'il va le faire à travers le Liban, en faisant des recherches sur son passé, sur son histoire de vie. Et on voit bien que toutes ces histoires ne sont pas définitives. C'est des morceaux d'histoire qui ne sont pas pérennes, et à partir de là, il va construire une mosaïque et se faire une histoire et comprendre ce qu'est le pays.
Dans le roman, justement, de Mariam, il y a quelque chose qui a résonné directement avec l'histoire de votre personnage, Rabbi Vatché Boulgourdian. C'est « Donnez voix à tes yeux ». C'est ce que dit l'héroïne à propos de sa mère. Et je voulais savoir ce qu'il y avait chez vous, Mariam Majidi, dans cette expression « Donnez voix à tes yeux » qui ressemble un peu à ce que fait Vatché Boulgourdian dans son film, c'est-à-dire « Donnez voix aux yeux de Rabbi, son héros qui est aveugle ».
Alors, quand la narratrice dit ça, en fait, c'est parce que effectivement, la mère de la narratrice est une femme très silencieuse, très muette. Hein. Donc, elle n'a pas le recours à la parole quelque part. C'est-à-dire que j'ai voulu aussi représenter, d'une certaine façon, le silence imposé aux femmes hein, en Iran et le fait qu'à un moment donné, elle a envie de peut-être rester en Iran parce qu'elle peut s'inscrire à l'université pour reprendre ses études de médecine. Et là, on l'empêche, hein, son devoir d'épouse et de mère et de rejoindre son mari en France, en exil. Et cette petite fille soupçonne, en tout cas, essaye d'imaginer un peu ce que la mère pourrait dire. Et je crois qu'il faut pas aussi oublier que la mère est allée dans cette université pour voir, pour témoigner. Et que d'une certaine façon, donner voix à tes yeux, c'est aussi comment par l'écriture, par la narration, cette petite fille va témoigner à la place de la mère. Là où elle ne peut pas parler, elle, la petite fille, va écrire. Voilà.
Et c'est vous un petit peu cette petite fille qui déterre, parce qu'on vous dites que vous faites un travail de fossoyeur à l'envers. Moi, j'ai l'impression que vous aviez déterré ce témoignage et que vous aviez déterré aussi un peu les fameux Marx, Engels, Lénine et Makarenko et Che Guevara qui sont enterrés par les parents opposants dans leur jardin.
Oui, mais parce que je pense que vraiment, en tout cas, c'est ma perception, ma conception des choses. Je pense qu'on écrit pour sauver de l'oubli. Et cette image du fossoyeur à l'envers, celui qui va déterrer, c'est pour ramener finalement à la mémoire, pour dire ne laissons pas la terre recouvrir les choses et ne laissons pas ces rêves, ces combattants, ces luttes, ces idéalismes s'éteindre. Donc voilà, ça rejoint quelque part le flambeau que j'ai pris de mes parents. Alors eux, c'était l'engagement politique et moi, c'est plus un engagement littéraire. Voilà.
Vatché Boulgourdian, si Mariam Majidi, elle, utilise la métaphore de la terre et de l'enterrement et de l'exhumation pour décrire sa démarche, vous, en interview, vous avez pu parler du fait que vous épluchiez l'histoire du Liban comme les écorces d'un arbre et que vous retiriez les unes après les autres. Et cette image, moi, m'a fait songer à un autre film qui est Le Vertigo d'Hitchcock, où il y a cette scène où il y a une souche et on voit les cercles concentriques de l'histoire à travers la souche d'un arbre. Mais alors vous inviter le spectateur à revenir dans le temps à travers l'histoire de ce très jeune homme, Rabbi, qui a même pas 25 ans, à travers jusqu'à l'histoire de la guerre civile du Liban dans les années 80, mais peut-être plus loin encore. Jusqu'où est-ce que vous remontez dans votre travail, votre enquête historique aussi qui est ce film Tramontane?
One of the things that was very striking in listening to Miriam's extracts was
une des choses qui m'a marqué dans l'extrait du livre de Mariam que j'ai entendu, c'est le fait que les souvenirs restent avec vous pour toujours. Et pour moi, c'était quelque chose de très similaire lorsque j'ai travaillé sur ce film. Au moment où j'ai commencé à écrire le scénario, j'essayais de comprendre ce que le Liban signifiait pour moi, puisque je vivais à l'étranger depuis 1990. J'avais fait mes études à l'étranger avec, bien sûr, des allers-retours, mais j'étais toujours, bien sûr, avec beaucoup de Libanais. Je rencontrais, bien sûr, des Libanais qui avaient fui le Liban au moment des violences de la guerre civile. Et je crois d'une certaine manière, dans des situations comme ça, on essaie toujours de définir ce que c'est le chez-soi, ce qu'est le pays natal, hein, et il y a ce que ça signifie aussi pour les autres. Et dans un sens, lorsque Rabbi va faire un périple à travers le Liban pour se chercher, c'est pour moi une manière de comprendre le pays également. Hein. Et pour moi, un film, c'est également une possibilité d'explorer le pays, d'explorer un thème, un sujet qui est très important pour nous. Et évidemment, c'est absolument pas exceptionnel. On a filmé en décor naturel. On a essayé de créer, comme vous l'avez mentionné, une espèce de coupe, de section de ce qu'était la société libanaise aujourd'hui, 27 ans après la guerre civile, qui, d'une certaine manière, fait toujours ombre à la société. Quelles sont donc les conséquences de cette guerre pour nous aujourd'hui ?
Vache Bolgourdian, vous êtes donc né au Koweït, vous avez grandi au Liban, vous êtes installé ensuite à Los Angeles. Vous retournez donc faire ce film au Liban dans les décors naturels. Est-ce que vous aussi, à ce moment-là, comme d'ailleurs Mariam Majidi a pu le dire, il y a eu une sorte de manque d'Iran en elle. Est-ce que vous, quand vous êtes revenu, vous aviez senti un déracinement, un manque de Liban avant d'aller tourner là ?
I was born in Kuwait, but my parents are Lebanese.
Au Koweït, mais mes parents sont libanais. Et en fait, j'ai grandi au Liban jusqu'à 1990. Et donc, toute mon enfance s'est déroulée pendant la guerre. Et plus tard, oui, j'ai fait des études à Los Angeles, mais je suis retournée au Liban.
And then went back and returned.
Voilà, puis je suis repartie, puis je suis revenue.
But for me, I must say, the most important thing was to.
Mais je dois dire que pour moi, la chose la plus importante, c'était d'examiner, de fouiller ce traumatisme qui avait été le mien quand j'étais enfant. Évidemment, c'était une des expériences les plus dramatiques de l'histoire du pays, et évidemment, l'expérience la plus dramatique pour le pays au XXe siècle. Et sous ceux d'entre nous qui ont été obligés de fuir, se sont d'une certaine manière déracinés, mais sans explication. On avait l'expérience de ce traumatisme, cette violence, mais sans vraiment comprendre ce qui s'était passé, exactement comme dans le film, c'est-à-dire que Rabir sait dans le film, par exemple, qu'il est devenu aveugle en raison d'un accident, mais il ne sait pas ce que c'est que cet accident.
La guerre, c'est de 1975 à 1990, au Liban, 15 ans.
Mariam Majidi, on entend la dimension dramatique qui est sourd au cœur de Tramontane, le film de Vache Boulgourgian. Il y a aussi, évidemment, tout le drame et toute la tragédie de l'histoire de l'Iran, en particulier depuis la révolution iranienne de 79, dans votre Marx et la poupée, votre roman. Mais il y a aussi, et j'y insiste maintenant, beaucoup d'humour dans tous ces fragments. Et à l'instant, Vache Boulgourgian évoquait sa présence à Los Angeles. Est-ce que vous nous diriez un mot de ce que c'est que Los Angeles ? Qu'est-ce que ça signifie pour les jeunes habitants de Téhéran, parce qu'on découvre avec humour aussi ce que c'est les complications et la tragédie de la vie quotidienne dans l'Iran d'aujourd'hui.
Alors, Los Angeles, c'est il y a une grande partie de la diaspora iranienne qui s'est installée à Los Angeles. Ça, c'est voilà, il faut le dire. Donc, quand moi j'étais retournée à Téhéran. J'étais à un moment donné en train de me promener avec ma cousine très rebelle dans les rues de Téhéran et on assiste à une scène de drague vraiment entre deux jeunes dans la rue mais sans se parler et je lui dis
faut avoir l'œil perçant pour l'apercevoir la scène de drague
faut avoir le regard perçant et je lui dis, mais comment ces jeunes font pour se draguer sans se parler ? Parce que bon, chez nous quand même, ça passe énormément par les mots, par la rhétorique, par la parole. Et ça passe en fait uniquement par le regard. Donc c'est un des chapitres du roman. Et elle me dit, mais tu vois, une fois qu'ils ont échangé leur numéro comme ça, sans se parler avec des signes, etc., le jeune homme en fait glisse son téléphone dans la main de la jeune fille, il se rappelle ensuite, et là il y a un code qui est « Veux-tu aller à Los Angeles ou San Francisco ?» Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Elle me dit « Vraiment ?» Alors en plus, moi, on s'est vraiment beaucoup moqué de moi, de ma naïveté, de mon ignorance quand j'étais retournée à Téhéran après 17 ans. Et elle me dit « Mais vraiment, bon, ça se voit que t'as pas grandi ici, c'est normal, en même temps, tu peux pas deviner. » Donc elle me dit « Bah le code, c'est quoi ? C'est que quand c'est San Francisco, c'est… on se voit, bon, on prend un verre, on se fait des petites papouilles. »
C'est les niveaux de date qu'on retrouve aux États-Unis, en fait.
Voilà, c'est la date, San Francisco. Et elle me dit, Los Angeles, là, c'est le grand saut, on y va à fond, on couche ensemble. Voilà, donc c'est ainsi que les jeunes, finalement, ce sont les techniques, les astuces qu'ils ont trouvées pour, malgré tout, vivre. Voilà, leur jeunesse, leur amour, leur drague, au-delà de la censure.
Considère avec indulgence les hommes qui s'enivrent. Dis-toi que tu as d'autres défauts. Si tu veux connaître la paix, la sérénité, penche-toi sur les déshérités de la vie, sur les humbles qui gémissent dans l'infortune, et tu te trouveras heureux. Fais en sorte que ton prochain n'ait pas à souffrir de ta sagesse. Domine-toi toujours, ne t'abandonne jamais à la colère. Si tu veux t'acheminer vers la paix définitive, souris au destin qui te frappe et ne frappe personne. Puisque tu ignores ce que te réserve demain, efforce-toi d'être heureux aujourd'hui. Prends une urne de vin, va t'asseoir au clair de lune et bois en te disant que la lune te cherchera peut-être vainement demain. Le Coran, le livre suprême, les hommes le lisent quelquefois, mais qui s'en délecte chaque jour? Sur le bord de toutes les coupes pleines de vin est ciselée une secrète maxime de sagesse que nous sommes bien obligés de savourer. Notre trésor, le vin. Notre palais, la taverne. Nos compagnes fidèles, la soif et l'ivresse. Nous ignorons l'inquiétude car nous savons que nos âmes, nos cœurs, nos coupes et nos robes maculées n'ont rien à craindre de la poussière, de l'eau et du feu. Qu'il est vil ce cœur qui ne sait pas aimer, qui ne peut s'enivrer d'amour. Si tu n'aimes pas, comment peux-tu apprécier l'aveuglante lumière du soleil et la douce clarté de la lune ?
Guillaume Gallienne fait sa personne avec cette lecture d'Omar Khayyam, ce poète que l'héroïne de Maryam Majidi n'hésite pas, et j'ai quelque chose me dit qu'elle n'est pas loin de vous, cette héroïne, puisqu'on est quand même dans une fiction autobiographique avec ce premier roman Marx et la poupée. Mais oui, il fait sa personne comme elle le fait elle-même pour séduire les hommes. Elle adore leur réciter du Omar Khayyam. À un moment, il y en aura pour tout le monde. Tout le monde aura du Khayyam récité par une personne. C'était quoi ce qui vous a donné envie, voilà, de faire un petit peu leur affaire aux hommes en France et à leur regard sur la femme orientale ?
Aux orientalistes, hein.
C'est aux pas orientalistes. Tout,
oui, s'il faut le
préciser. Pas tous les hommes.
Ah ben non, mais non. C'est vraiment
ce pauvre Delacroix.
Parce que voilà, il faut dire que l'héroïne fait exprès de se mettre dans des positions d'odalisque et de Delacroix pour les séduire. En fait, voilà, vous appuyez sur les boutons du cliché.
Alors, moi, j'ai vu le film de Vache Boulgoulian et j'ai été très touchée par la cécité, en fait, du personnage. Et je voudrais justement répondre par rapport à ça. C'est que je pense que quand on n'a pas une connaissance, enfin, quand on ignore notre identité, on est en quête, comme son personnage principal.
Rabbi d'entre
Rabbi qui cherche, qui entend des discours à chaque fois contradictoires, des histoires qui ne collent pas avec celles qu'il avait entendues avant. Et en fait, ce chapitre donc sur l'orientalisme, Khayyam, en veux-tu, en voilà, c'est vraiment parce que l'héroïne ne se trouve pas. Donc il faut qu'elle corresponde à l'image que les autres finalement ont d'elle, à l'attente que les autres ont d'elle. Donc la chevelure bouclée, etc., les grands yeux noirs, tout ça. Eh bien voilà, elle va jouer finalement ce rôle qu'on lui donne sur son petit théâtre, dans sa petite mise en scène. Et effectivement, en plus, ça marche. Mais je voudrais quand même insister sur la fin de ce chapitre qui se termine dans un délire, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à le réciter. Khayyam devient à l'image aussi de la structure du roman complètement décomposée, fragmentée, disloquée presque comme une marionnette qui n'aurait plus aucune harmonie. Et c'est parce qu'elle en peut plus. Vous voyez, elle en a un peu jusque-là et à un moment donné, elle s'essouffle aussi dans cette identité cliché, finalement, qui n'est pas la vraie. Et on ne sait pas, à un moment donné, la grand-mère lui dit « Va raconter de l'intérieur. Va chercher, finalement, ce que tu es à l'intérieur de toi. » Et je pense que c'est ça.
Cette entreprise, Maryam Majidi, oui, d'aller chercher à l'intérieur de soi, de voir et témoigner, ce qui est le but de plusieurs de vos personnages, et singulièrement de votre narratrice, au péril de sa vie, voire au péril donc de son esprit, jusqu'au délire, jusqu'à la folie, c'est quelque chose qui a pu vous saisir, vous, la romancière, puisque vous choisissez d'aller à l'intérieur de vous et d'en sortir tous ces fragments.
Mais oui, parce que je pense que l'écriture guide, guide vraiment l'identité. La création, en fait, donne une direction à cette identité-là. Puisque
mais ça vous a rassemblé ou au contraire, ça vous
totalement,
a éparpillé?
Ben, je trouve que l'objet, là, rassemble. Voilà, c'est le livre. Il est fini, il est créé, il est donné au monde. Et bien sûr qu'il y a cette figure d'une harmonie, du coup, d'une cohérence, voilà, à la place de toutes ces identités multiples dans lesquelles, vraiment, je pense que je me perdais, en fait. C'était pas... Donc, Khayyam fait rire, là, le chapitre que j'ai écrit, mais en fait, il est aussi cynique, hein. Il y a c'est un humour un peu noir. Elle se moque d'elle-même aussi. Elle se met en scène et on sent que ça ne peut plus durer comme ça.
One, two, three.
Vous écoutez Ping Pong, l'émission sur France Culture éparpillée qui parfois se rassemble dans les œuvres. À suivre, vous en saurez plus sur Rabhi, le héros de Tramontane, le très beau film de Vache Boulgourdian, à la recherche de son passé et de la cécité, bien sûr, de tout un pays, le Liban. Et puis, toujours, l'humour éparpillé, fragmenté, réconcilié de Mariam Majidi.
Ping Pong. La culture sans limite.
Réparer les blessures de l'histoire et élever leurs protagonistes à la dignité de héros, tel est peut-être, pour une part, le propos de nos invités de ce soir. Tel est en tout cas celui de notre disque du jour, le deuxième volume du projet collectif, que dis-je, du premier supergroupe féminin d'Afrique, Amazon d'Afrique, un disque intitulé République Amazon, où les plus grandes voix féminines du continent noir prennent le pouvoir au nom du combat permanent pour l'égalité et la liberté. Une entreprise musicale et politique donc, où l'on retrouve Angélique Kidjo, Rokia Traoré, Mamani Keita, Ina Modja ou encore Mariam Doumbia du duo Amadou et Mariam, mais aussi la fière et douce fondation Panzi fondée en République démocratique du Congo par le docteur Denis Mukwege, chirurgien gynécologique et prix Sakharov des droits de l'homme, qui soigne et conseille les femmes victimes de crimes de guerre en Afrique. Un disque nécessaire et entêtant comme la chanson de la germano-nigériane Neka, la dame et ses valises.
You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. You can't go wrong. You can't go wrong in this. With love, cause when things go wrong, we still be strong.
La Dame et ses valises, chanté par Neka, extrait du disque Amazon d'Afrique, volume 2, République Amazon, produit par Dr. L et Liam Farrell, et paru chez Real World. Les Amazones d'Afrique seront en concert en Guadeloupe le 7 mars, en Martinique le 8, puis à la Philharmonie de Paris le 12 mars prochain.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Abia Malik.
مظبوط الاسم هيك؟
نعم.
انت ليش بدك الباسبور؟
انا بدي اعمل باسبور لانه بدي سافر انا والجوقة على اوروبا.
جوقة؟ انت بتغني؟
نعم.
هاي الهوية منا قانونية. ما فيك تروح لمحل.
لما جيبوك لعندي كان عمرك 3 اشهر. بس هذا ما بغير شيء. بعدني امك، بعدك امي. بعدني بحبك، انا اللي ربيتك.
أنا حالي شو حتعملي؟ بدي تجيبي لي وثيقة ولادة ربيع حتى سجله.
ضاعت بالحرب، نقلنا كتير بيوت، وهي من بين كتير إشي ضيعنيها.
Tramontane de Vache Boulgourdjian a été présente à la semaine de la critique à Cannes et vous le découvrirez en salle mercredi prochain. Nous sommes sur les traces de Rabi qui est un musicien aveugle en quête de son passé. Il essaye de faire refaire ses papiers et c'est là que tout a disparu, que tout est faux. En quoi pour vous Vache Boulgourdjian c'était vraiment nécessaire de faire raconter cette histoire par un héros qui est par ailleurs aussi musicien dans la vie et qui est le héros du film, qui est Baraka Djabour, par quelqu'un d'aveugle.
Yes, I definitely think it was a story that was meant for a blind man.
Je pense que c'est une histoire qui était faite pour un homme aveugle pour un certain nombre de raisons. Ça serait un film différent hein, si le héros voyait. D'abord, c'était une décision de faire que le héros soit aveugle hein, et évidemment si il avait été voyant, il aurait découvert la vérité sur ses papiers d'identité bien avant. Évidemment, c'est quelqu'un qui a été très dépendant de sa mère, de sa famille pendant toutes ces années. Mais malgré tout, après avoir découvert ce problème avec ses papiers d'identité, il va être obligé de parcourir le pays seul et de devenir plus indépendant au fur et à mesure qu'il se découvre. Et il y avait vraiment en fait cette volonté en fait, d'utiliser cette cécité qui était inclus dans tout ce qui était le film. Hein. Et un autre aspect donc, de la cécité dans le film, c'est l'aveuglement. Et de ne pas montrer que même si lui, en fait, est handicapé physiquement, il peut y avoir autour de lui beaucoup d'autres gens qui sont mentalement, en fait, aveuglés. Hein, et les deux sont des conséquences de la guerre.
Et en découvrant Tramontane, Vache Boulgourdjian, je me suis posé la question des échos qu'il pouvait y avoir entre votre film et l'histoire du cinéma. Et donc j'ai cherché des aveugles au cinéma. J'ai trouvé la trace d'Audrey Hepburn, qui est une aveugle otage de gangsters dans Seul dans la nuit. Ensuite, il y a Zatoichi, le samouraï aveugle que Kitano a pu mettre au cinéma. Et puis je me suis dit que je faisais fausse route et j'ai cherché les aveugles dans la tradition arabe. Et j'ai découvert l'existence du poète syrien qui a vécu au Liban au XIe siècle, Abou Ala al-Mari, qui a été traduit en français notamment par Adonis, un poète qui était pessimiste, rationaliste, qui se faisait pas beaucoup au XIe siècle. Sa statue d'ailleurs a été décapitée par des djihadistes en 2013. Et il a pu écrire voilà que toutes les religions sont dans l'erreur, qu'il n'y a que deux catégories d'hommes, les crapules initiés et les dévots stupides. Il y a cette réplique dans votre film à un moment où il est question des criminels au Liban qui se prennent pour Dieu. Je voudrais savoir si votre personnage, Rabbi, donc incarné par admirablement par Baraka Djabour, il a quelque chose de cela, de ce poète syrien du XIe siècle qui ruait dans les brancards. Est-ce que c'était aussi une volonté non pas de heurter le Liban et les Libanais, mais de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire ces quatre vérités quand même à votre nation?
Je pense qu'effectivement, il y a cette colère chez Rabbi contre le monde et la guerre. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce film parle de se réconcilier avec la réalité, pas avec l'oubli ou pas avec culpabiliser. Hein. C'est, ça parle de réconciliation.
In the words of the great African-American author James Baldwin,
dans le travail de James Baldwin, cet auteur américain, notre humanité est notre fardeau le plus lourd. Il ne faut pas se battre pour ça, il faut tout simplement l'accepter, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est vraiment ce que Rabbi va embrasser pendant son périple, en fait. Il s'agit donc d'une histoire de devenir mûr, de la maturité d'un homme.
C'est une histoire donc d'émancipation à travers cette quête identitaire, d'accepter aussi l'incertitude de l'être, la possibilité d'une identité qui ne s'explique pas, d'une identité qui est multiple. Et je voulais savoir justement le moment où on a l'impression qu'il embrasse ce fardeau humain qui est le nôtre, qu'on soit aveugle et qu'on soit né au Liban ou pas. C'est une musique qui est vraiment la scène finale. Votre interprète est musicien et c'est très important. Pendant tout le film, c'est la musique qui prend le relais des sentiments intérieurs du personnage. Je voulais savoir ce qu'il y avait pour vous dans ce morceau final que vous avez choisi pour votre interprète Baraka Djabour.
Well, the music in the film, there are two types of music in the film. There's a score and there's a
deux types de musique hein. Dans le film, il y a la bande originale et puis il y a la musique diégétique en fait, hein, celle qui appartient vraiment au personnage et à l'histoire. Donc toute la musique que Rabbi joue, c'est de la musique arabe classique et donc on avait en fait quelqu'un qui supervisait la musique qui s'appelait ce qui s'appelle Cynthia Zaven et donc, elle a travaillé très étroitement avec Baraka Djabour. Et elle a également composé la bande originale. Mais dans tous les moments du film, hein, la musique diégétique, la musique que Rabir joue dans le film, est le reflet de son état d'âme. Et le dernier morceau, donc, qui est bien plus long que les autres. Hein, alors, quelquefois, c'est un morceau qui dure 30 ou 45 minutes et voilà, il l'a joué donc en 16 minutes Barakat, mais on a coupé 8 minutes, ce qui était très très long hein, et les gens avaient très peur.
Soulage-moi, donne-moi une réponse.
Yes, absolutely. Give me an answer. In the very beginning, the song voilà, of the movie,
et c'est exactement ça, oui. Et cette chanson, il la chante tout au début du film, hein, mais dans un contexte tout à fait différent. Alors que à la fin, il a rempli cette chanson de sens. Il en a compris le sens. Hein. C'est un air qui a été joué depuis des siècles. Avec des interprétations très différentes, mais c'est toujours en fait une musique qui déplore les conditions. Voilà, c'est toujours dans ce chant en fait hein, le chanteur se plaint de ce qui lui arrive et finalement là le personnage Rabir a compris le sens de cette chanson. Et il était pour moi important de garder l'intégralité de cette chanson, hein, parce que je voulais respecter en fait ce qui s'était produit dans le personnage, et parce que c'est un moment de catharsis, hein, un moment où Rabir comprend qu'il n'est pas cette personne-là ou cette autre personne, mais qu'il a, à travers la musique, a créé sa propre personne, son propre être. Et donc, une fois de plus, on est dans cette attitude de réconciliation et cette attitude d'embrasser les choses.
Mariam Majidi, là on est à l'instant dans la musique et l'ouïe de Rabi, ce personnage, donc ce héros aveugle de Tramontane, le film de Vache Boulgourgian. Mais si on se tourne vers vous et qu'on va vers Marx et la poupée, donc votre roman qui est constitué de tous ces souvenirs fragmentés pour votre narratrice qui cherche à retrouver elle aussi, à sa façon, son identité. Si on songe au plan et à la mise en scène de Vache Boulgourgian, où il y a souvent des plans très serrés sur l'oreille de Rabi avec du flou à l'arrière-plan. J'aimerais savoir si vous vous êtes retrouvé vous-même dans cette situation-là pour écrire votre récit, quelle place Louis a pu occuper, parce qu'il y a évidemment les mots, les anecdotes que racontent différents protagonistes à votre héroïne. Il y a les odeurs qui peuvent être très fortes par moment dans certains fragments. Voilà, est-ce qu'il y a le son qui vous a enlacé, comme dit Rabi dans Tramontane?
Alors, Louis a été quelque chose de très important dans l'élaboration de ce roman, puisque toutes ces histoires, ces anecdotes, notamment dans la première partie, donc dans la première naissance, ce sont des histoires qu'on m'a racontées. Donc je les ai beaucoup écoutées. J'ai aussi beaucoup posé de questions à ma famille, qu'elles soient celles en France ou en Iran, pour savoir, pour connaître, pour comprendre, comme le protagoniste du film de Vache Boulgourgian, pour chercher, savoir d'où je viens.
Vous enquêtez sur votre naissance.
Il y a une vraie, vraiment une quête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé durant les 6-7 premières années de ma vie. Pourquoi on a été à un moment donné exilé. Donc ce sont des histoires que j'ai vraiment écoutées. Et ensuite, alors dans une autre dimension complètement différente, j'ai écrit tout ce roman en écoutant la musique d'Anouar Brahim.
On a entendu le pas du chat noir tout à l'heure sous votre lecture.
Mais j'ai vraiment écouté tous ces albums, des premiers aux plus récents. Et ça a vraiment accompagné l'écriture. C'est-à-dire, dès que je commençais à écrire, boum, il y avait la musique en même temps. Et c'était un signe pour pas me déranger aussi. Parce qu'à Istanbul, je vivais avec 4-5 colocataires. Et quand ils entendaient Anouar Brahim, ils savaient qu'il fallait pas rentrer dans la chambre, que j'étais en train d'écrire. Et donc c'était un code aussi. Mais ça a vraiment accompagné, voilà, chaque pas, chaque mot. Il était très présent.
Évidemment, le vide est une aubaine parce que, en fait, on vous déracine de votre passé, on vous déracine de votre mémoire, et comme ça, on peut reformater une mémoire qui devient forcément hallucinée, imaginée. Et vous, en tant qu'individu, vous avez beaucoup de mal à retrouver vos repères, à faire le lien entre la réalité factuelle, la réalité fantasmée, la réalité racontée, et comment est-ce qu'on arrive justement à cette émancipation de l'être en essayant de faire sa propre synthèse. Il y en a qui arrêtent bien avant, il y en a qui vont jusqu'au bout, et ce combat peut mener à la folie.
Yam Yared, romancière libanaise interviewée dans Cosmopolitan. Et cette histoire de la chance du vide, la chance du déracinement pour recomposer, et en même temps cette quête qui peut vous entraîner vers la folie, moi ça m'a fait penser à votre travail, Vache Boulgourgian, parce que c'est vrai que dans cette quête du héros Rabi, on a parlé de son émancipation, on a parlé aussi des mensonges successifs qu'il va rencontrer, et c'est vrai que il y a matière narrative aujourd'hui folle avec le Liban. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cela? C'est-à-dire que finalement on est sur un regard rétrospectif quasi inexistant ou peu formulé sur la situation, donc je le rappelle, de 75 à 90 dans la guerre au Liban. Est-ce que là justement il n'y a pas un espace narratif pour le cinéaste qui est incroyable?
I must say that in even history textbooks
Je dois dire hein, que même en fait les manuels d'histoire s'arrêtent en 75 au Liban. Hein. Donc cet événement qui a façonné le Liban contemporain n'est pas étudié à l'école. Donc il n'y a pas d'histoire commune, hein. Il n'y a pas de récit de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans les différentes communautés en conflit lors de la guerre civile a abouti à un récit communautaire pour chacune d'elles. Et donc évidemment, ça a créé une véritable crise des récits, hein, avec des récits qui sont en compétition, hein, et des désaccords sur ce qui s'est produit. Parce qu'évidemment, si on ne peut pas se mettre d'accord sur ce qui s'est passé dans le passé, si on ne peut pas se mettre d'accord sur un récit commun, évidemment, on ne peut pas se mettre d'accord sur le futur. Hein. Et donc, je ne suis pas du tout un expert sur ces questions-là. Je ne fais pas une déclaration vraiment. Mais le film est une invitation au dialogue, hein, pour qu'il démarre ce dialogue, hein, pour qu'on puisse explorer, regarder. Et pour moi, c'est essentiel.
D'où la polyphonie des récits dans ce tramontane, hein, Vachier Aboulkhodian.
Mais justement, quand on se représente la diversité, la mosaïque libanaise vue de France et avec la méconnaissance qu'on a souvent de ce pays, d'un côté, soit on a l'idée de la petite Suisse du Proche-Orient, de l'autre côté, on a l'idée de cette mosaïque religieuse qui serait très prégnante, avec le Hezbollah en embuscade, on a l'idée évidemment du conflit syrien terrible aux frontières du Liban et qui, on le sait, a des relations très étroites avec ce pays. Et vous, ce que vous montrez justement dans Tramontane, c'est un autre Liban, c'est un Liban très contemporain, où certes il y a une église, il y a une école arménienne, mais c'est ce Liban des villas, des quartiers chics où les hommes et les femmes dansent ensemble, les femmes sont en décolleté, en mini-jupe pour un mariage, et puis c'est aussi le Liban de ces paysages bibliques, de l'origine du monde, des champs en terrasse et même des champs de sel sur la mer. Donc non seulement vous cherchez à réconcilier tout le Liban, mais aussi à montrer toutes les facettes inconnues de ce Liban.
Oui, c'est tout à fait ça, hein, et c'est très important pour moi. Et comme on le disait à propos du livre de Mariam auparavant, il y a souvent, bien sûr, cet auto-orientalisme que l'on a. Ce qu'on entend souvent, c'est les clichés sur le Liban, comme vous les avez décrits à l'instant. Mais lorsque vous vivez au Liban, lorsque vous y passez du temps, ce que vous voulez, en tout cas ce que je veux, c'est très important d'essayer de fouiller l'histoire, d'arriver à comprendre les différentes strates des différentes récits des différentes histoires du Liban qui ont façonné le pays. Et à l'inverse, hein, les clichés ont tout effacé. Et c'est l'inverse, ces caricatures de ce qu'est le Liban vraiment. Et comme vous l'avez dit, il y a des paysages bibliques, il y a les Romains, les Phéniciens, il y a l'histoire de l'islam. Et évidemment, plus tard, la relation avec la France. Ce sont des étapes, des moments qui ont construit l'identité du Liban tel qu'il est aujourd'hui. Et je voulais aller dans ces lieux-là, hein, parce que visuellement, on les voit très très peu, et pour moi, ils ne sont pas seulement importants, mais ils sont également pleins de sens et très beaux aussi. J'espère qu'avec d'autres films, je pourrai continuer cette exploration géographique du Liban.
Et vous faites aussi, à votre manière, Vachier Aboulkhodian, une entreprise de déterrage. C'est vrai que d'aller ressortir ces paysages, c'est aussi aller chercher, comme vous le dites, dans les strates enfouies, dans la géologie des récits du Liban. Et ça me fait penser à votre entreprise littéraire, Mariam Majidi. C'est vrai que on l'a pas dit au début début de l'émission. Ça s'appelle Marx et la poupée, ce premier roman, mais vous proposez aussi tous les titres auxquels on a échappé. Il y a un très beau titre que vous empruntez à un proverbe tibétain, « La patrie n'est qu'un campement dans le désert », à méditer. Et il y a aussi beaucoup de titres, « Une vie à déterrer »,« Je reviendrai tout déterrer », etc. Est-ce que vous aussi, voilà, il y a des choses à faire apparaître, des choses qui n'étaient pas dans le récit que vous vouliez remonter en surface, comme Vache Bolgourdian?
Oui, alors surtout, moi ce que j'ai voulu déterrer, d'une certaine façon, c'était peut-être les clichés. Voilà, les clichés les clichés qu'on a sur l'Iran, les clichés qu'on peut avoir aussi de l'autre côté, donc sur la France, etc. Et j'ai voulu montrer avec ce roman aussi que on pouvait pas se contenter de ça. C'est-à-dire que la critique de l'orientalisme, c'est aussi ça. C'est de dire à un moment donné, sortons de ces identités qu'on nous plaque. Voilà, je trouve ça très dangereux, en fait. Quand on nous somme de choisir entre une identité, comme si deux ne pouvaient pas coexister, trois, quatre, cinq, il y en a qui ont parfois des identités tellement plus vastes, tellement plus complexes. Et voilà, c'est surtout ça que j'ai voulu montrer en creusant comme ça. Voilà.
Ping-pong. Mais c'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux. Il faudra donc lire Marx et la poupée de Mariam Majidi aux éditions du Nouvel Attila pour savoir si finalement l'héroïne a déterré Marx et venu récupérer ses poupées. Et il faudra évidemment aller voir Tramontane pour connaître le dénouement de la quête identitaire de Rabbi Baraka Djabour, ce héros magnétique sur la pellicule Héros aveugle de ce film de Vache Bolgourdian en salle mercredi.
Le ping-pong est une identité radiophonique multiple qui se compose en équipe et qu'à l'équipe. À la rédaction Aïssatou Ndoye, Jeanne Léos, Seam Boutata et Anna Baron, à la réalisation Thomas Beau, à la prise de son ce soir Jacques Hubert et Élise Leu.
Et pour parfaire eh bien, notre oui, il y avait ce soir à l'interprétation Pascal Fougère.
Lundi, dans Ping Pong, la comédienne Maria de Medeiros et l'artiste polymorphe Valérie Mregen s'affrontent toutes les deux à leur façon à la question de la maternité.
Et dans quelques instants, à voix nue sur France Culture, bien sûr.